le meilleur.
Marceau le midi. Avec Marceau, Pascal CV et Thomas Gauthier.
Midi 26 minutes, ça va vite. Quelle belle fin de semaine on a connue à côté météo. Il y en a qui ont trouvé ça un peu froid, mais moi j'ai adoré. Faites un
froid,
peu de moto.
Fin de semaine.
Ouais, il y en a qui ont trouvé ça froid, trouvé ça encore pas assez confortable. Ben, je peux vous dire que ça se réchauffe pour ce qui est de cette semaine. Les avez-vous vus, les aurores boréales?
Oui, ça me dit.
Pas moi.
Moi, je les ai vus partiellement. J'ai pas regardé avec mon cellulaire comme il y en a qui ont fait. J'ai regardé avec mes yeux. Pascal a été la chasseuse d'aurore boréale.
Oui, on est parti nous autres vendredi avec tout notre stock de chasseurs. Puis on a parcouru la route jusqu'à Bellechasse.
C'est quoi un stock de chasseurs d'aurore boréale?
Deux bières.
Deux bières. Éric Duhaime, les as-tu vus, les aurores boréales? Bonjour, monsieur le chef du Parti conservateur du Québec.
Bonjour, Yannick. Non, j'ai pas vu les aurores boréales en fin de semaine. Je suis désolé.
Tu nous salues pas, Éric.
Ah, bonjour, ma chère Pascal.
Salut.
Donc là, est-ce que tu as célébré la fête des mères, au moins?
Évidemment, ça. Ouais. C'est un immanquable. Hier soir, ma mère est venue sur la maison. On a eu bien du fun.
T'as-tu l'intention d'aller manger avec Mia sur les terrasses du Vieux-Québec dans les prochaines semaines?
Ben écoute, c'est quelque chose, c'est une nouvelle ce matin dans le journal qui retient l'attention, qui fait jaser.
Ben
oui. Effectivement, il y a des propriétaires de restaurants qui veulent pouvoir permettre à leurs clients qui veulent aller sur les terrasses cet été de pouvoir amener leurs chiens parce que présentement, ils n'ont pas le droit. Puis moi, je suis dessus que je trouve ça complètement ridicule. Je veux dire, t'es dehors, là.
Mais il y en a qui le permettent. Ça veut dire que c'est des contrevenants.
Ouais, ben en fait, c'est toléré. Puis moi, je laisserais la tolérance-là parce que ça dépend du chien. T'sais.
Oui, ça dépend du chien et du maître dans ce cas-ci.
C'est ça, mais ça, c'est au propriétaire à décider. Mais présentement, là, ceux qui le tolèrent, là, ils sont en infraction avec la loi. Fait qu'ils le tolèrent parce qu'ils veulent faire. Qui espère qu'il n'y a pas un inspecteur qui va arriver pour faire une contravention.
Mais ça dépend tout le temps. Ça dépend tout le temps du chien, Eric. Moi, c'est un chien comme Mia ou c'est un petit chien qui fait pas, tu sais, qui brasse pas, ça me dérange pas. Mais c'est des chiens qui se jappent après pendant que je suis en train de manger sa terrasse. J'oublie ça.
Mais en même temps, ça revient au propriétaire du restaurant de décider. Là. Je veux dire, c'est à lui à décider ce que oui ou non, je veux ça. T'sais, en France, ils font rentrer dans un restaurant. Ceux qui sont allés à Paris, ils ont vu ça.
Au Costa Rica, c'est des épiceries. Mais là, c'est sûr que de façon hygiénique, c'est pas la meilleure affaire non plus. Là, mais...
Ben, c'est ça. Mais t'sais, en même temps, je veux dire, en France, vous connaissez bien du monde qui meurt parce que les chiens ont été mangés dans des restaurants. Je ne suis pas sûr. Il y a même de la bouffe aux chiens dans bien des restos. C'est une culture et une mentalité totalement différente. Ici, c'est sûr qu'au Québec, là, honnêtement, il faut se le dire, on a une politique puis on a une intervention de l'État très anti-chien. Il y a même des. Quand tu es rendu dans des parcs, tu ne peux pas amener ton chien, il y a des limites. Là. Je veux dire, on a développé là, un sentiment très fort puis on a réglementé beaucoup contre les chiens. Puis je trouve pas ça très simple. Puis je veux dire, c'est aux clients, c'est aux propriétaires de restaurants de décider. C'est pas au gouvernement de commencer à décider ça. Si on n'arrête pas de dire qu'il faut pas laisser nos chiens dans nos chars l'été quand il fait chaud. Si les gens ont faim pour toutes sortes de raisons, qu'ils arrêtent de manger. S'ils ont le chien, ils font quoi? Là, si on peut pas les mettre, même pas sur une terrasse, là, c'est un peu excessif, quant à moi.
Oui, mais c'est ça. Il y a des gens qui sont rendus extrêmement intolérants quand ils ont commencé à dire « Ah, ben les cigarettes, pour ce qui est à l'intérieur des restaurants, c'est non, c'est fini, c'est terminé. » Puis là, ben les fameux intolérants se sont ramassés sur les trottoirs du Vieux-Québec. Donc, quand il y a des gens qui fument sur le trottoir, les autres à l'arrière chiolent parce que la personne en avant fume. En même temps, t'es dehors. Là,
mais t'as des mauvais propriétaires aussi. Je sais pas comment est-ce qu'on pourrait réguler ça. Là. Mais tu sais, des gens qui pensent que leur chien, c'est un être exceptionnel, on les croise dans les sentiers de randonnée, eux. Puis ils attachent pas parfois des chiens qui devraient être attachés. Là, ça chicane avec l'autre chien. Il y a des comportements de chiens aussi. J'en connais un là, qui s'est fait attaquer par un autre. Puis là, il est rendu anxieux. Fait qu'il est défensif. Puis là, il a l'air agressif, mais c'est parce qu'il a peur. Puis là, il y a tout ça qui est à gérer. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais le chien est devenu un mode de vie. Là. Puis dans les trentenaires, là, je connais pas grand trentenaire qui ont pas eu envie d'avoir un chien ou qui ont pas de chien. Puis ça les suit partout où ils vont. Là.
Ça, c'est une bonne remarque que tu fais là. En tout cas, moi, j'ai remarqué ça avec Mia. Le niveau de tolérance augmente quand plus les gens sont jeunes. Je te dirais que le monde de 30-40 ans, puis même encore plus jeune, là, ils sont beaucoup plus tolérants par rapport aux chiens. Mm-hmm. Les seuls commentaires désobligeants que j'ai eus, c'était souvent des personnes plus âgées. Je sais pas si c'est parce que les gens, je sais pas si c'est générationnel ou si c'est parce qu'avec le temps, les gens deviennent moins tolérants. Je sais pas c'est quoi. Mais je sais qu'il y a une différence de comportement en fonction de l'âge par rapport à des chiens. En tout cas, moi, ce que j'ai vécu, c'est ça.
Mais ils ont peut-être plus de temps pour être intolérants.
Peut-être. Ou peut-être, comme a dit Pascal, ils ont peut-être moins de chiens.
Oui, exact. Hey, Éric, je voulais parler avec toi de l'article de Michel Gérard qui est paru en fin de semaine dans le Journal de Québec. Québec qui cache carrément la taxe du carbone qui nous charge lorsqu'on fait le plein de l'essence. On parle d'une taxe carbone qui est de 13,4 cents le litre que les pétrolières refilent directement aux consommateurs québécois. Et on dit que ça apparaît nulle part. Comment ça qu'on n'avait jamais entendu parler de ça au Québec?
Bien, parce que depuis le début qu'il y a ce débat-là, écoutez, au Canada anglais, un des éléments, au Québec, on explique que la chute de popularité de François Legault par son virage à 180 sur le troisième lien. Au Canada anglais, la chute de Justin Trudeau au fédéral a beaucoup, beaucoup été liée à la taxe carbone. Il y a eu une taxe qui a été imposée au Canada anglais. Puis au Québec, on a les députés du Bloc québécois qui nous répètent faussement depuis des mois « Ah, mais au Québec, nous autres, ça ne s'applique pas, on n'a pas de taxe carbone. » C'est vrai qu'elle ne s'applique pas parce qu'on a déjà des surtaxes, nous autres, qui existaient avant l'arrivée de la taxe fédérale. Les provinces avaient le choix de commencer à taxer avant que le fédéral le fasse. Puis contrairement au Canada anglais, où le prix de la taxe apparaît sur la facture, un peu comme la TPS des véhicules quand tu vas au restaurant, là, au Québec, ça apparaît pas parce que le Québec fait partie de la bourse carbone. Là, je ne vais pas rentrer dans les technicalités, là, mais on a un système, il appelle ça le SPID, le système de plafonnement et d'échange de droits d'émission, qui fait qu'on paye à chaque... Les pétrolières sont obligées de payer une taxe à chaque tonne qu'ils émettent, ce qui revient à peu près, là, grosso modo, comme tu disais, à 13,4 cents le litre. Ça va monter. Là. D'ici 5 ans, ça va être rendu à 22,5 cents. Là,
ça n'a pas de bon sens. Sur 50 litres, je reprends les chiffres de Michel Gérard, là, sur 50 litres d'essence que tu mets dans ta voiture, tu payes en taxe carbone 6,70. Puis c'est les pétrolières qui encaissent la taxe carbone, puis les recettes de la taxe carbone leur permettent de se procurer auprès du gouvernement du Québec des droits d'émission de gaz à effet de serre en vertu du système de plafonnement et d'échange de droits d'émission.
C'est ça. Fait que, puis tu sais, quand on se demande pourquoi qu'au Québec, on paye plus cher l'essence, là, c'est pas parce que les pétrolières, ils n'aiment pas ça, c'est pas parce qu'il a fallu traduire des mots en français, là. Si on paye plus cher, c'est parce qu'on taxe plus. Quand vous allez à la pompe, là, il y a 40 % ou à peu près, là, dépendamment du prix là, que vous payez aujourd'hui, là, mais grosso modo, ça devrait toujours 40 % du coût de votre pétrole. C'est directement des taxes. Ça va pas aux pétrolières, ça va pas au gars qui vend le gaz, ça va pas à l'usine qui de raffinage. Ça va directement dans les poches du gouvernement. Et c'est un problème parce que puis ça va poser un autre problème à plus long terme sur la question d'équité. Parce que historiquement, on disait OK, c'est justifié parce que faut que ces gens-là payent pour les routes, faut que ces gens-là payent pour le transport en commun. Puis de toute façon, si tu as une auto, tu es plus riche que le monde qui utilise l'autobus. Donc, en quelque part, c'est plus équitable que ce soit toi qui payes. Sauf que là, avec l'arrivée des voitures électriques, on est dans un nouveau paradigme. Parce que les gens qui ont plus de revenus, on s'entend que tu sais, quand tu as un moyen de t'acheter un char électrique à 80 000 $ parce que tu ne fais pas partie des plus démunis. Là. Puis c'est les gens qui ont des minunes à gaz, là, puis ça va être de plus en plus sûr parce qu'il va y avoir de moins en moins le droit de vendre des véhicules à essence. Donc, les gens qui sont les plus pauvres vont commencer à payer de plus en plus pour l'entretien des routes puis pour le transport en commun, alors que les gens qui vont se promener avec des gros chars à 100 000 $ eux autres ne paieront plus ces taxes-là.
Au-delà de ça, moi, j'entends les usagers du transport quand même. Mais ça ne dérange pas, il n'en paye pas, moi, de la fin de naissance. Mais attends un peu, là, c'est parce que les camions qui t'amènent ta nourriture, les camions qui t'amènent tout ce que tu dois te procurer, nécessairement, ils payent pas mal plus de taxes, puis nécessairement, ça va paraître sur le prix, là.
Oui, c'est sûr que le prix de l'essence, c'est pour ça que nous autres, on proposait, puis on propose encore, puis on est le seul parti qui fait ça, parce que c'est pas bien de dire qu'on veut baisser les taxes sur l'essence, mais on n'a pas le choix. Si on veut combattre l'inflation, la meilleure façon de le faire dans le contexte économique actuel au Québec, c'est de baisser les taxes sur l'essence, d'être au moins compétitif avec le reste des États canadiens puis américains. Sur 60 États puis provinces là, en Amérique du Nord, on est 59e, le Québec, en termes de monde qui paye le plus de taxes. Là. Il y a nous autres, la Colombie-Britannique, qui paye le plus de taxes de tout. Là. Fait que à un moment donné, il faut arrêter, parce que comme tu dis, c'est pas juste l'épicerie, c'est tout. Tu fais venir le gars de construction chez vous, il arrive avec son truck.
Avec son truck, ben oui.
Puis c'est sûr que tu vas me dire, oui, mais Eric, c'est juste 10 cents, c'est juste 25 cents, c'est juste une pièce. Mais c'est parce qu'additionnez-les, là, tout ce que vous consommez à la fin de la journée, là, pour essayer de calculer combien ça vous a coûté.
Éric, dans l'article de Michel Gérard, là, il dit, le montant total des taxes s'élève plutôt à 68,8 cents lorsqu'on inclut la discrète taxe sur le carbone. Fait que tu as taxe provinciale sur le carbone, 13,4 cents, taxe provinciale sur les carburants, 19,2 cents, taxe d'assises fédérale, 10 cents. Taxe de vente fédérale TPS, 7,8 cents. À ça, tu ajoutes la taxe de vente du Québec, 15,7 cents. Taxe pour le transport collectif, 3 cents. Donc, écoute, c'est 68,8 cents de taxes par
litre. Il y en a qui trouvent qu'on ne paye pas encore assez. Là. Je veux juste vous rappeler qu'on a des maires présentement qui cherchent l'argent pour les transports en commun, là, puis qui nous disent qu'il faudrait que le gouvernement augmente les taxes sur l'essence. Puis que, parce que, par exemple, ils disent que le 19,2 sous, là, la taxe provinciale sur les carburants, ils disent qu'elle n'a pas été indexée, il faudrait l'indexer.
Ouais, ça, c'est la nouvelle patente. Là. Le rendez-vous national sur l'avenir du transport collectif, tu as toutes les maires extrémistes qui se sont présentés là.
Exact. Puis là, ils se ramassent avec des solutions que c'est toujours la même solution. Jamais que c'est de mieux gérer leur société de transport. C'est toujours d'aller chercher plus d'argent dans les poches des contribuables. C'est désolant, mais c'est malheureusement comme ça. Puis là, c'est le gouvernement, il est comme, il les écoute. C'est ça qui est désolant. J'espère qu'ils vont pas aller de l'avant. Mais il y a un risque actuellement là, que les contribuables et les automobilistes vont encore passer à la caisse.
Je reprends la citation. C'est désastreux, selon eux, là, c'est désastreux d'exiger que les villes paient pour les projets de transport collectif. Mais en même temps, l'utilisateur, il doit payer aussi pour son transport collectif. Là. C'est pas gratuit, ça. Là. On paye, les utilisateurs actuellement payent à peu près 30 % de la valeur de leur passage. Ils sont financés par nous autres à 70 %.
Là. Ben oui. Puis est-ce que les sociétés de transport et les villes ont fait le ménage avant de demander plus d'argent aux contribuables? Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Parce que si vous regardez, là, un employé municipal qui fait le même travail qu'un employé qui travaille au gouvernement du Québec gagne 36 % de plus. OK, il faut juste savoir ça. Là. Puis l'autre affaire, fait que, tu sais, 36 % c'est des coûts énormes. Là. Est-ce qu'ils ont fait ça? Est-ce que depuis la pandémie, on sait que les usagers, il y en a moins dans les autobus dans le transport en commun. Est-ce qu'ils ont fait le ménage de s'assurer que les lignes où il ne reste plus personne, on tire la plug parce qu'il y a eu une baisse d'achalandage importante? Est-ce qu'il y a eu une baisse équivalente au niveau du service, étant donné qu'il y a moins de monde qui prennent l'autobus? Ça, quand tu poses ces questions-là, là, c'est le silence de criquet. Tu entends tout, il n'y a plus rien. Là, parce qu'ils savent que Ils n'ont pas fait le ménage. Ils veulent juste toujours avoir plus d'argent parce que c'est beaucoup plus facile d'aller siphonner votre portefeuille que de faire le ménage et se tenir debout face au syndicat.
Mais la CAQ, Éric, s'en sort tellement bien parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est eux autres qui ont permis aux villes de toucher aux taxes. Là.
Mais oui, eux autres, ce qu'ils disent, c'est « Regarde, on va laisser les villes pouvoir augmenter les taxes. » Fait qu'ils se lavent les mains, fait qu'il y a pas d'immatriculation. Puis ça, fait qu'ils disent « Ah, c'est pas nous autres, c'est vos villes. » Puis là, ils savent bien que Bruno Marchand et Valérie Plante, là, c'est pas du monde qui sont des responsables sur le plan fiscal, c'est des conservateurs. Là, tout le monde sait qu'eux autres, ils voudraient encore toujours plus nous taxer. C'est la gauche dans plusieurs villes au Québec qui a pris le contrôle des hôtels de ville. Donc, ils veulent leur laisser faire la job sale, entre guillemets, là. Puis ça va passer sur leur dos. Ça passera pas sur le dos de la CAQ, mais comme ça, la CAQ, assez vite, de faire le ménage, puis assez vite de porter l'odieux des augmentations de taxes.
Oui, puis je te réfère à un article de Félix Morissette-Beaulieu sur le site de Radio-Canada. Ça date de 2023, 29 novembre 2023, mais c'est pas grave. On apprenait que, selon une étude, les sociétés de transport en commun du Québec dépensent davantage en frais de gestion et d'administration que celles des autres provinces. C'est 17 %. Avec près de 17 %, cette proportion au réseau de transport de la capitale est similaire à celle de la Commission de transport de Toronto, qui offre à la fois des services d'autobus, de tramway et de métro. Donc, ils n'ont pas fait le ménage de leur propre organisation. Non. Les audits de performance ne sont même pas terminés. Puis eux autres, ils se promènent à gauche et à droite en disant « On a besoin de plus d'argent, besoin de plus d'argent, besoin de plus d'argent. » Et ça, c'est sans compter quand on apprend qu'ils s'achètent des tasses pour ce qui est du RTC, là, 30 000 piastres de tasses.
C'est l'autre, c'est un point important que tu viens de soulever. Il y a un audit présentement qui est en cours, là. Puis, t'as raison, il n'a pas encore été déposé leur rapport. On ne sait pas encore ce qu'ils vont trouver, mais ils ont déjà trouvé la solution, eux autres. Ils savent déjà que ce qu'il va falloir, c'est d'augmenter les taxes pour les contribuables, pour les automobilistes. Puis, ça ne sera pas de faire le ménage dans leurs dépenses. Il y a juste le maire de Laval qui, dans la presse, il y a une semaine ou deux, a écrit une lettre ouverte, puis il a parlé qu'il fallait peut-être réouvrir les conventions collectives des chauffeurs d'autobus puis des syndicats. Écoute, il y a eu un tollé épouvantable. Mais de temps en temps, il y en a un qui va dire « Regarde, ça prendrait peut-être un peu de ménage », puis il se fait rabrouer puis se fait taire par l'ensemble des autres maires. Puis le gouvernement du Québec, mais il est passif, il n'ose pas prendre le taureau par les cornes. Puis même j'ai trouvé que François Legault, tu sais, même quand il a traité de quêteux, c'est sûr que ça ressemble à ça. Ils vont voir le gouvernement du Québec, ils veulent toujours plus d'argent. Mais d'utiliser un qualificatif comme ça, ça a exacerbé les tensions. Puis je trouve qu'on a focusé sur le mot puis sur l'insulte, entre guillemets, là, plutôt que sur le problème. Moi, je pense que François Legault aurait davantage dû parler du problème puis de sortir des chiffres comme toi puis moi, on vient de le faire, là, pour les remettre avec les deux yeux en arrière des trous. Là.
T'aurais pas aimé te présenter au municipal, Éric Duhaime?
Pourquoi tu dis ça?
Bien, il me semble que ça brasse. Tu connaissais déjà la communauté à Québec. Il y a des enjeux comme ça sur lesquels tu te prononces, que tu aurais un peu plus de torque.
Mais c'est pas un enjeu municipal. Ben, c'est un enjeu qui est municipal et provincial parce que normalement, c'est le gouvernement du Québec qui prenne le taureau par les cornes.
Exact.
Mais il n'y a pas le courage de le faire.
Mais
présentement, c'est la job municipale, mais ça devrait pas être le municipal
Si tu étais encore au micro à ma place en ce moment, Éric, tu dirais mais vous n'avez pas répondu à ma question, M. Duhaime.
Mais oui, je viens de répondre. Je viens de te dire que c'est un enjeu provincial. C'est
mais toi, t'aurais pas aimé ça de présenter au municipal?
Non, sérieusement, non. Puis c'est drôle parce que quand j'ai été approché pour me présenter à la chefferie du Parti conservateur, la première gang qui m'avait approché, c'était de me parler du municipal. C'était avant même l'arrivée de Bruno Marchand, là. Quand la bombe a annoncé qu'il ne se représentait pas. Et non, ça ne m'avait pas intéressé. J'ai toujours été passionné par la politique québécoise. Mon cœur n'a pas bougé.
On n'a pas fini avec la mobilité à Québec. Là. Le rachat du pont de Québec pour 1$ par le gouvernement fédéral, ça ne fait pas l'unanimité, nous dit-on, dans la capitale nationale. C'est un article de TVA Nouvelles qui est paru hier. Et là, on dit plusieurs experts militent pour la conservation du pont à long terme, notamment le président du Fonds mondial du patrimoine ferroviaire. Moi, ça fait mon affaire, tu sais, que M. Allard, qui est le président du Fonds mondial du patrimoine ferroviaire, dise « faut conserver le pont de Québec le plus longtemps possible ». Lui, il est déçu de l'entente, mais il dit « depuis 40 ans, je tente de trouver des solutions à la préservation de cet héritage de la Ville de Québec. C'est là que c'est important, là. La vocation du pont de Québec, c'est le transport collectif. C'est une piste cyclable sur le pont de Québec et non pas une artère à trois voies où on optimise l'achalandage de l'automobiliste. »
Ça, c'est l'autre affaire avec la gang de gauche, là. Ils nous disent qu'on compte un troisième parallèle pour qu'un des deux liens ne soit que pour du transport collectif. Fait qu'autrement dit, ils veulent carrément éliminer ou asphyxier lentement, mais sûrement, le transport routier. Là. C'est carrément ça qu'ils veulent faire. Là. C'est pour ça, d'ailleurs, même le projet de troisième lien de la CAQ ou même du PQ, c'est un troisième lien juste pour le transport en commun. Là. Fait que ils essayent de nous dire, regarde, on va tellement vous faire attendre, on va tellement vous taxer que vous allez prendre l'autobus, vous allez prendre le tramway, que vous le vouliez ou non. C'est ça qui est le problème depuis le début dans ce dossier-là. C'est qu'au lieu de respecter les choix de chaque famille, parce que chacun a une réalité différente, on essaye de nous le rentrer dans la gorge. Et c'est de plus en plus patent. J'ai hâte de voir la Caisse de dépôt et placement infra qui est en train de faire un rapport là-dessus qui devrait sortir dans à peu près un mois. Moi, je les ai rencontrés il y a deux semaines. Et moi, mon message principal, c'était pas compliqué, là. C'était d'abord et avant tout, écoutez donc les gens qui vont l'utiliser puis qui vont le payer. Parce que présentement, là, il y a 70 % de la population à Québec, là. Ce qu'elle veut, c'est pas plus de pistes cyclables entre la rive sud et la rive nord. C'est un lien autoroutier, un troisième lien. 62 % de la population a vu que ça passe par l'île d'Orléans. Nous autres, on n'a rien inventé, on a juste écouté le monde. Puis je pense que ce serait important parce que, ultimement, là, c'est pas les politiciens qui vont le payer, c'est encore moins eux autres qui vont l'utiliser. Là. Fait que ça serait important qu'on écoute ces gens-là. Mais malheureusement, j'ai l'impression que dans toutes les consultations qu'ils font, ils consultent beaucoup de groupes d'intérêt écolo à Montréal, mais ils ne consultent pas beaucoup la population qui habite à Québec et qui devrait être celle qui décide.
Je vais faire une remarque, là, puis ça ne plaira peut-être pas au Parti québécois, mais j'ai l'impression des fois qu'ils sont empêchés de réfléchir. Eux autres, ils se font dire une affaire, puis tout ce qu'ils ont dans leur bouche, mais les experts nous disent. J'ai demandé à Pascal Paradis, le député de Jean Talon, qui a été élu lors d'une partielle, qui a dit non, nous, on n'en veut pas de troisième lien à Québec. J'ai demandé c'était quoi le plan B, advenant le cas d'une fermeture à long terme du pont Pierre-Laporte qu'on se souhaite pas. Bien, ils ne savaient pas c'était quoi le plan B, mais pourtant, ils se prononcent là-dessus à chaque jour. Ils ne savaient pas que c'était le pont La Violette, le plan B, puis que sur le pont de Québec, les camions ne peuvent pas passer. Ça serait une tragédie, Éric, et ces gens-là se prononcent à tous les jours en disant « on n'en veut pas de troisième lien ». Mais on savait pas que Québec était en danger si jamais le pont Pierre-Laporte fermait. Mais les experts nous disent qu'on n'a pas besoin de troisième lien. Mais les experts nous disent qu'on n'est pas supposé fermer le pont Pierre-Laporte. C'est du grand n'importe quoi. Ces gens-là sont plus capables de réfléchir par eux-mêmes.
Ils citent les experts quand ça fait leur affaire. Parce que, honnêtement, on l'a vu, c'est quoi, il y a deux semaines, là, qu'il y avait un des deux ponts qui a été fermé, puis le bouchon de circulation que ça a créé pendant 7 km.
C'est le pont de Québec. Ouais.
C'était en plein week-end, là.
Oui.
C'était pas en heure de pointe un lundi matin, là. Et puis, on le sait, là, les deux ponts sont en fin de vie. Les deux ponts ont des problèmes. Il y a des problèmes avec les suspentes sur le pont Pierre-Laporte. C'est un pont qui vieillit prématurément. Ça aussi, il y a des experts qui ont écrit des rapports là-dessus, là. Mais eux autres, on les écoute pas. Et puis le pont, là. Puis le pont de Québec, mais là, tu sais, je veux dire, c'est pas. On l'aime bien le pont de Québec, là, mais j'ai besoin d'aller marcher dessus. Là. Il y en a encore une. Il y en a une passe pour passer avec les vélos puis marcher à pied. Là. Allez le traverser une fois dans votre vie, là, puis regardez la rouille puis l'état de décomposition de ce pont-là. Là. Vous allez peut-être changer d'idée. Fait que c'est. Puis en plus, on vient de nous annoncer, tu le sais, là, un pont pour la partie nord de l'île d'Orléans à 2,7 milliards de dollars. Il y a quoi, deux semaines que la ministre Guilbeault nous annonçait ça, là? Mais pas foutu de nous annoncer qu'il va continuer jusqu'à sa rive sud.
Ouais.
Je veux dire, c'est vraiment décevant ce qui est en train de se passer. Puis ça aussi, c'est un peu comme le dossier des maires de tantôt. Là. Ils ont un rapport qui s'en vient de la Caisse de dépôt, mais ils annoncent le pont juste la partie nord avant que le rapport sorte. Ils commandent des rapports, mais ils ont déjà les conclusions avant même que l'étude ait été faite.
Exact. Puis, tu sais, ce qu'il y a à retenir aussi dans la citation de Geneviève Guilbeault, c'est « ça coûte 2,7 milliards, c'est très cher, mais on n'a pas le choix. » Imagine-toi, lorsqu'on aura une problématique de pont à Québec, c'est quoi le montant qui va sortir pour un futur troisième lien? Ça va être exorbitant. On pense jamais aux générations. On pense jamais aux générations de demain.
Non. Puis là, tu vas être content, Yannick. Nous autres, on a tenté d'en faire une étude. On a embauché deux experts, puis on va sortir ça le mois prochain, même avec une maquette pour notre troisième lien. Donc, on va... Tu sais, je pense que c'est important. Puis on n'a rien réinventé. Là, on a tout pris l'ensemble des études qui ont été faites depuis plusieurs mois, puis on est en train de... Puis même plusieurs années, j'aurais dit. Puis on est en train de tout rapporter ça, puis on va sortir de quoi, là. Puis c'est pas le rapport du Parti conservateur, là. C'est le rapport de ce que les gens de Québec attendent. Tu sais, moi, j'aimerais ça, à la limite, là, que ça soit pas associé à aucun parti, parce que c'est pas une affaire politique, c'est une affaire pour le transport, pour l'avenir économique de notre région, puis même pour la sécurité de notre région.
Éric, as-tu une grosse semaine?
Pas si mal, oui. J'ai fait une conférence de presse mercredi, puis je me promène un peu partout cette semaine, comme d'habitude. Là, je commence l'été, c'est sûr qu'on sort plus, il y a plus d'activités sur le terrain. Là. C'est agréable de revoir le monde un peu plus, on est moins casanier.
C'est toujours un plaisir, bonne semaine.
Merci à vous autres, bye.
Le chef du Parti conservateur, Éric Duhaime, on réagissait justement au fait qu'il y a eu un article en fin de semaine de la part de Michel Girard, qui nous mentionne qu'il y a une taxe effectivement cachée du carbone qui coûte 6,70 $ par plein d'essence. Puis au Québec, il y a plein de gens qui disent « Non, taxe du carbone, on n'a pas ça, on n'a pas ça. » Écoute, c'est une taxe du carbone, 13,4 cents le litre que les pétrolières refilent aux consommateurs québécois. Et cette taxe-là n'apparaît nulle part. Elle est cachée directement dans le prix du gros de l'essence qui est déterminé à la rampe de chargement de Montréal. Fait qu'on se pose tout le temps les questions. C'est moins cher l'essence ailleurs. Mais nous autres, on a la réponse avec l'article de Michel Girard. Le vrai montant des taxes, Pascal, s'élèverait à 68,8 cents lorsqu'on inclut la discrète taxe sur le carbone qui est camouflée directement dans le prix de gros des distributeurs.
Mais il y en a beaucoup de choses comme ça qui
c'est
sont passées dans des montants.
C'est 70 cents du litre.
Là. Ça paraît, là.
Je sais pas. Mettons que le litre est à 2 piastres, là. Tu sais, c'est toujours bien 1,40 sur le 2 piastres, là.
Juste en taxe, pas en produit, là.
Juste en taxe, c'est ça.
C'est complètement fou.
Ouais.
Tu peux faire deux tankés. Quand tu y penses, là, 40 %, c'est presque, si tu l'économises, ce 40 %-là aussi, il est diminué, c'est presque deux pleins d'essence. Le montant que tu dépenses,
ouais,
ça pourrait être deux pleins d'essence en ton mois. Là,
et de l'autre côté, tu as le fameux rendez-vous des maires extrémistes, rendez-vous national sur l'avenir du transport collectif. Devinez qui était là, Valérie Marchand et Bruno Plante. Nos deux maires préférés qui demandent à Québec, donc à la province de Québec, d'indexer la taxe sur l'essence. Ils veulent toujours plus de taxes, mais non, il n'y a pas de guerre à l'automobile.
Moi, ça ne me dérange pas si c'est expliqué, puis si ça fait un certain sens.
Ça ne te dérange pas.
Il y a des projets comme ça où on taxe, qu'on m'explique, que je comprends pourquoi je paye.
60 cents du litre en taxe, ça ne te dérange pas d'en payer plus?
Pas ça, j'ai dit. Ce projet-là, ça me dérange. J'ai dit, moi, si on me présente un projet parfois, exemple,
ouais,
les frais dentaires, là, on va payer plus d'impôts fédérales pour offrir de meilleurs soins dentaires à des gens qui ne réussissent pas à se payer.
Ouais.
Ben moi, il y a des affaires pour lesquelles, si on me l'explique, puis je comprends qu'est-ce que ça a comme filet social ou encore mesure économique, que j'accepte.
Mm-hmm.
Ça me fait suer parce que j'aimerais bien mieux l'avoir dans mes poches personnelles, mais au moment où c'est dépensé, au moment où c'est investi, je sais que c'est un bien collectif. Puis que si j'en ai besoin, je serais contente de l'avoir. Mais comme ça, quand c'est exorbitant, quand c'est presque la moitié du prix, puis qu'en plus, on m'explique pas bien pourquoi, où est-ce que ça va aller, puis je sais pas comment ça va être dépensé par les paliers gouvernementaux, là, je suis un peu plus insultée.
C'est des serres à rien. C'est pas compliqué. Ils sont pas capables de gérer ce qu'on leur demande de gérer, c'est-à-dire les poubelles, le déneigement, l'incinérateur, les infrastructures. Ils veulent plus gérer ça. Ils veulent gérer le climat. C'est eux autres qui veulent mettre le doigt sur le thermostat à maison chez vous. C'est ce qu'ils veulent faire. Puis leur seule idée, c'est pas de bien gérer la ville, c'est pas de bien gérer un réseau de transport en commun à Québec. Leur seule idée, c'est de sortir le plus possible l'automobile puis de vous rentrer à l'intérieur du transport en commun. C'est une idée qui les hante, puis je sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière ça, mais sérieusement, pour leur santé mentale, j'essaierais d'éviter de constamment penser à ça puis de gérer la ville qu'on leur demande de gérer. Bruno Marchand, c'est le maire d'un seul mandat. Il va se faire sacrer dehors et les groupes qui vont prendre la place à la Ville de Québec vont détruire ce qu'il a mis en... En fait, il n'a rien mis en place, mais ils vont tout enlever, l'air marchand pendant 4 ans. Je comprends pas pourquoi il ne tend pas à s'améliorer en disant « Regardez mon bilan, là. On avait des plaintes là, il y a de ça 4-5 ans là, sur le déneigement. Voici à quel point le déneigement s'est amélioré sous ma gouverne. Voici à quel point les vidanges se sont améliorées, le recyclage, l'incinérateur, les infrastructures, les patinoires qu'on a mis en place, les patinoires tempérées l'hiver. » Il n'y aura pas ce bilan-là. Il n'y a rien, c'est le néant.
Il y a une affaire que des fois je me questionne là, au niveau... Ça, je vais appeler ça de la psychologie politique, là. Il y a des rôles dans la vie où on doit s'assurer d'avoir une base qui ne change pas. Je vais faire le parallèle avec le journalisme. Il faut encore des journalistes qui ne sont pas d'opinion, que ce n'est pas de la chronique, que c'est de la nouvelle. Fait que s'il y a eu 100 cas de COVID-19, ben on nous dit qu'il y a eu 100 cas de COVID-19. C'est un article qui est un peu neutre, qui peut être monotone pour certaines personnes, mais ce sont des faits. Fait qu'il y a des journalistes qui vont aller poser des questions, faire des demandes d'accès à l'information, arriver avec des chiffres, compiler des statistiques, nous offrir des articles qui sont pas teintés d'un avis, par exemple, d'opinion ou de X, Y, Z. Puis que si on a des commentaires d'experts, ben on a le commentaire d'un expert X puis d'un autre expert X qui se confrontent au pire dans le même texte. Faut pas que ça bouge. Ça, faut que ça se conserve. C'est bien moins payant. Il y a bien moins de clics. Mais faut qu'il y ait une constance puis une obligation que ce rôle journalistique-là existe encore. L'objectivité, la neutralité dans les textes. En politique, on voit un peu le même courant s'effacer. Il y a beaucoup plus d'opinions, de valeurs personnelles qui embarquent dans une façon de gérer. Puis c'est peut-être ce qu'on voit avec les nouveaux maires. Et après, on vote, si on se fait mentir, c'est une autre affaire, mais on vote, on choisit en tant qu'électorat.
Dans le cas de Bruno Marchand, on s'est fait mentir avant.
S'il y en a qui se présentent que pour leur façon de voir les choses et non pour le bien de la société, faire avancer des dossiers plates, neutres, objectifs, ben on va perdre aussi au bout du compte. Je pense qu'il faut une balance, un équilibre entre les deux. Puis peut-être qu'on la perd un peu dans cette dernière décennie.
Midi 53, on fait une courte pause. 418-971-101, 418-971-101, on revient.
Marceau le midi.